Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va vous gâter pour cette 130e émission, naturellement avec notre ami Stéphane Desenclos, qui était notre invité la semaine dernière, avec aussi donc le président Pierre Ferracci du Paris FC au téléphone. On reviendra sur donc la victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. On va aussi, parce qu'on aime parler de tous les sports, parler tir aujourd'hui avec notre invité Sébastien Blanchoin de la Ligue Régionale Île-de-France. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Philippe.
Voilà. Et puis on a Delphine Racinet-Réau hein, qui arrive à très bientôt, hein, à tout moment, ex-sportif de haut niveau, médaillé olympique à Sydney et puis à Londres. Donc on aura l'occasion eh bien, de découvrir un petit peu mieux ce sport avec elle. Je vais saluer Vanessa.
Bonsoir, bonjour,
Vanessa.
Bonsoir Philippe.
Ça va ?
Bonsoir
et,
à notre invité hein, également.
Voilà. Et puis on va faire un petit coucou à Alexandre,
oui.
Il y aura pas, qui est à Miami, mais enfin il n'y aura pas de journal des sports exceptionnellement donc ce lundi. Mais on lui fait un petit coucou. Et puis on va parler aussi. Et on va commencer par là, hein, le temps que Delphine donc, arrive. On va commencer par un forum qui a eu lieu donc, à la Maison du Sport, au CNOSF,
le
21 mai dernier,
dernier
ouais, à l'initiative du Comité français pour le fair play, qui concernait un vaste domaine, la santé mentale des sportifs. Vanessa.
Exactement, autour de plusieurs tables rondes avec donc, des chercheurs, des psychologues, des sportifs de haut niveau tels que Isaura Tibus en escrime et oui. Renaud Clerc en para-athlétisme.
On dit des choses très intéressantes.
Hein. Exactement. C'est l'une des choses qui m'a le plus marqué, des entraîneurs hein, et puis des dirigeants du sport français comme Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF. Voilà. Donc il y a eu des débats hein, autour de ces diverses questions. D'abord un état des lieux, puis ensuite des débats avec des interventions. Et nous, justement, à la fin donc, de ce forum, on a pu rencontrer les différents intervenants de justement ce forum sur la santé mentale, à commencer justement par Yann Campo, Michael
oui,
Campo,
oui,
pardon.
Michael Campo, mais on va écouter tout à l'heure. Je voulais simplement demander à Sébastien, la santé mentale pour les sportifs et sportifs que vous êtes ou que vous avez été, c'est hyper important.
Bah, tout à fait, hein, c'est
surtout
hyper important.
Dans votre sport.
Oui, exactement. Comme on parle, on dit souvent le tir sportif, comment on fait pour être champion
oui.
Eh ben, c'est plutôt 20% technique et 80% mental. Donc, c'est hyper important. Et puis, comme on dit, hein, c'est le cerveau qui commande le corps. Donc, on parle souvent des blessures, mais il y a aussi les blessures psychologiques. Mmh. Un athlète de haut niveau, c'est comme une montre suisse, un petit grain de sable et puis tout se dérègle. Donc effectivement, donc nous dans le sport, on travaille surtout sur la sophrologie, la préparation mentale, avec le lien des entraîneurs, le lien donc quand c'est des coachs, parce qu'évidemment les entraîneurs des fois ils peuvent pas suivre sur tous les déplacements, donc on a des coachs et donc savoir utiliser les bons mots, les bons termes, se protéger aussi des réseaux sociaux, parce qu'évidemment malheureusement les réseaux sociaux c'est à la fois une bonne publicité pour l'athlète de haut niveau. Mais il peut aussi recevoir des ondes négatives et ça peut aller à une contre-perf à cause de une ou deux ou trois personnes sur 1000 messages reçus. Ben voilà, donc ça peut le dérégler. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire très, très attention sur les réseaux sociaux. Mais autrement, moi je trouve ça génial le préparation mentale parce que c'est nos limites, quoi.
Ouais. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Ça va bien
ouais, excusez-moi pour le retard.
Non, bah, ça
quelques
arrive,
bouchons
ça
d'en
parler. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va parler tir, je l'ai dit, mais on va commencer, ça nous permettait de vous attendre, on va commencer par la santé mentale des sportifs sur un forum qu'on a eu l'occasion, auquel on a eu l'occasion d'assister. Et je demandais donc à Sébastien, c'est un vaste problème actuellement. Vous qui avez été sportif de haut niveau, c'est encore pire maintenant avec les réseaux.
Oui, alors c'est vrai qu'à mon époque, il n'y avait quand même pas ce sujet-là.
Oui.
Et on est quand même bien pollué par les réseaux et par tout ce qui s'y dit, parce que c'est loin d'être la vérité, sauf que certains, jeunes ou moins jeunes, hein, le prennent pour argent comptant. Et ça peut être vraiment destructeur pour le mental de l'athlète, qui n'a pas besoin de ça, parce que c'est déjà compliqué de bien se comporter pendant toute sa carrière. On a des hauts, on a des bas. C'est une reconstruction permanente, en fait, c'est ça, hein, le sport de haut niveau. Et c'est vrai que se rajoute à cela aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux, mais qui peut être à la fois porteur dans certains cas, mais destructeur dans d'autres, mais vraiment destructeur.
Alors, comme on voulait vous attendre, on avait commencé par ce sujet. On va écouter donc Mickaël Campo. Il est responsable de la préparation française, de la préparation mondiale, pardon, à la Fédération française de rugby et chercheur en psychologie sportive. On l'écoute. Et on lui a demandé s'il était content de cette journée.
Sur la préparation mentale, c'est un thème qui est d'importance. Les Jeux Olympiques ont mis en évidence l'importance de la dimension mentale. Ça a mis en évidence aussi les carences qui existent parfois aussi dans le sport français par rapport à d'autres nations plus avancées, et notamment en termes de structuration. On sait que par exemple les préparateurs mentaux, c'est un métier qui n'est pas encore réglementé, alors même si c'est en cours. Mais il est important qu'en tout cas cette journée a mis en avant, le besoin de réglementer cette profession avec un besoin de formation important, exigeant, et que ce soit pour les préparateurs mentaux, mais aussi une exigence de formation des entraîneurs sur ce sujet. Donc je trouve que, en ce sens-là, cette journée est une vraie réussite, avec une pluralité d'intervenants qui ont parlé de l'accompagnement des sportifs, mais aussi de l'accompagnement des individus par le sport. Et je trouve que, du coup, ces deux approches-là sont assez complémentaires, et la richesse du panel d'intervenants fait que on voit qu'il y a un gros panorama à aller investir, et un besoin fort de structuration, de clarification des termes, de clarification des interventions à faire, de clarification des compétences à avoir selon l'objectif que l'on vise, parce que tout le monde aura à y gagner, les athlètes, les entraîneurs et les fédérations.
Oui, parce que c'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu le flou entre les psys, les coachs mentaux, les préparateurs physiques. Est-ce qu'on travaille partout pareil ?
Oui, bien sûr, c'est forcément. À partir du moment où la clarification n'a pas été donnée par le ministère, très clairement, on ne peut pas reprocher aux acteurs du sport, que ce soit les entraîneurs, les dirigeants ou les athlètes, de ne pas savoir vers qui se tourner. Donc, et pourtant, il y a des compétences qui sont fondamentalement différentes. Alors, bien entendu, il y a des compétences un peu similaires pour certains champs, mais un préparateur mental va être associé à la performance, et notamment à la performance mentale, donc tout ce qui est le développement des habiletés mentales, tout ce qui est le développement de la dynamique de groupe. Un psychologue va peut-être être associé un peu plus à l'accompagnement psychologique, aux soins, à la prévention. Et en ça, c'est complémentaire. Et la Fédération française de rugby, on a clarifié très clairement, à défaut pour l'instant de réglementation, on a clarifié très clairement ce sujet-là. Qui fait quoi, à quel moment, pour quelle mission, que ce soit dans la performance mentale, que ce soit sur l'individu, le groupe ou les staffs, parce qu'il y a la question des staffs, bien entendu, la performance des staffs, et puis qui fait quoi dans la santé mentale, que ce soit dans le soin, dans la prévention, mais aussi dans la promotion, parce que c'est aussi un peu le risque avec la grande cause nationale sur la santé mentale, tout le monde s'engouffre dedans, c'était un peu la teneur aujourd'hui, et tout le monde s'engouffre avec des conceptions déjà qui ne sont pas forcément alignées et surtout avec une vision qui est plutôt, à mon sens, parfois un peu noire. Alors que le sport, c'est, quand on donne toujours cette statistique de il y a 20% des athlètes qui souffrent de difficultés sur le plan mental, ça veut dire qu'il y en a 80% qui vont bien aussi. Il faut être aussi capable de pouvoir mettre ça en valeur parce qu'il y a du boulot qui est fait, du boulot qui est même parfois très bien fait. Ça nécessite de structurer uniquement pour que ça puisse aller encore mieux.
C'est générationnel dans tous les sports parce que c'est vrai, il y a 30-40 ans, il n'y avait pas autant de staff et de coaching autour des sportifs et des équipes, quoi.
Le générationnel par rapport à quoi ? Par rapport à la prise en compte de cette dimension ?
Oui.
Générationnel, je n'irai pas forcément sur générationnel, mais en fait, il y a une évolution, oui. Très clairement. Déjà, on parle davantage de cette dimension-là. Et en fait, c'est une temporalité même presque, j'ai envie de vous dire. Bien entendu, sur le niveau de la performance, il y a 10-15 ans de ça, on parlait davantage de la préparation physique parce qu'on ne connaissait pas tout. Il fallait se structurer, il fallait avancer sur ça. Puis avant, c'était peut-être les dimensions un peu plus technico-tactiques. Et en fait, quand on a commencé à épuiser un peu toutes ces variables de la performance, il nous reste aussi cette dimension mentale qui est encore... on ne peut plus dire qu'elle est peu investie, mais qui était peu investie à l'époque. Et en ce sens, c'est la temporalité qui veut ça, pas forcément la génération, mais la temporalité. On a l'effet des jeux qui fait que ça amène une lumière sur l'importance de cette dimension-là. Et puis, c'est aussi des joueurs et des entraîneurs qui sont mieux sensibilisés, mieux formés et qui comprennent un peu mieux ce que c'est. Et ça enlève parfois un peu aussi tous les fantasmes autour de ça. Et ça nous permet aussi de faire le tri entre les pratiques charlatanes et les pratiques qui sont plutôt basées sur l'évidence scientifique.
On l'a vu auprès du 15 de France et du staff Galtier. On a le sentiment qu'on a mieux géré l'événement qu'il y a peut-être une dizaine ou quinzaine d'années à travers tout le staff, avec notamment beaucoup de data aussi aujourd'hui.
Oui. Alors, est-ce que c'est dû à ça ou autre? C'est la performance, c'est quelque chose d'ultra complexe pour le cas du 15 de France, comme pour le 7 masculin qui a été champion olympique. En fait, c'est tout un système qui a été mis en place avec des entraîneurs qui sont profondément intégrés la dimension mentale dans leur système d'entraînement, dans leur système de performance. C'est des entraîneurs qui sont attentifs à la dimension humaniste. Donc, avant même de dire c'est la préparation mentale, c'est plutôt la considération de l'intégration de la dimension mentale dans le projet de performance, et en ça en fait des entraîneurs experts, que ce soit Galtier ou Daret. Les deux sont des entraîneurs experts à mon sens, parce que justement ils ont su intégrer cette dimension mentale dans leur plan et dans leur projet de performance.
Donc dans les prochaines années, ça va encore aller plus loin, ça va encore s'améliorer si on arrive à bien clarifier les rôles.
Oui. Alors nous, sur la Fédération française de rugby, on a plus ce souci entre guillemets du sens, dans le fait que on a structuré, on a clarifié, on accrédite, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir que des personnes accréditées chez nous qui travaillent avec nous. On forme nos entraîneurs, on a une formation spécifique pour ça. On forme nos mômes, qu'ils soient dans nos académies, mais même les éducateurs pour les tout petits, pour que le rugby soit source d'épanouissement. Donc vous voyez, on est sur l'ensemble en fait de l'architecture, ou en tout cas du parcours du joueur. Donc on n'a plus ce souci à la fédération, même si la réglementation va nous aider dans l'absolu, c'est une évidence, mais ça va aider surtout l'ensemble de l'écosystème sportif.
Merci beaucoup, Mickaël. Merci. Merci. Voilà pour Mickaël Campeau, donc pour la Fédération française de rugby, hein, responsable de la préparation mentale. Delphine, ça se passait comment à votre époque?
Alors, ça se passait comment? Ouais. En fait, il y avait des préparateurs mentaux, on va dire, pour un préparateur mental ou deux pour l'équipe. Moi, j'avais fait le choix d'en prendre un pour moi. Et puis, surtout, ce que je lui demandais, c'est de ne pas venir sur le terrain. Parce qu'en fait, pour moi, le rôle du préparateur mental, en fait, se cantonne à me rendre indépendante et à gérer tout, c'est-à-dire... que ce soit la partie entraînement ou que ce soit la partie compétition, en fait, son rôle, c'était justement de me donner les clés, les outils, en fait, pour être capable de me débrouiller toute seule sur le terrain. Le coach, l'entraîneur technique, on va dire, lui, il était là sur le terrain et parfois, bien sûr, ils interviennent sur le mental, mais après, c'est à l'athlète, en fonction de comment il le ressent, de dire ou pas au coach, écoute, sur cette partie-là, laisse-moi gérer. J'ai préparé, donc je sais faire. Et puis sur la partie technique, tu interviens, bien entendu. Et j'ai déjà vu sur des terrains, en fait, un coach mental qui intervenait sur la technique. Pour moi, ça ne se mélange pas, quoi. On est préparateur technique ou préparateur mental, mais... Moi, j'estime qu'il faut différencier les deux.
Ouais, c'est ça. Le problème, c'est de bien clarifier les rôles. Alors, deuxième interview, donc c'est Jean-Pierre Mazdoua, qui est vice-président de la Fédération française de boxe savate.
Et évidemment, entraîneur de savate boxe française. On l'écoute tout de suite. Bonjour, on a parlé aujourd'hui de santé mentale. Vous êtes notamment entraîneur de boxe française. Je me demandais, on a parlé de la santé mentale des sportifs de haut niveau, mais qu'en est-il aussi de la santé mentale des entraîneurs?
Comme l'a dit un intervenant, à un moment donné, les entraîneurs, parfois il y a des athlètes pour une raison ou pour une autre, soit pour une blessure ou parce qu'ils ont un engagement professionnel, qu'ils ne vont pas suivre une compétition, surtout le calendrier de compétition. Par contre, les entraîneurs, effectivement, sont obligés de suivre tout. Avec cette difficulté de devoir entraîner différents athlètes avec différentes problématiques, différentes mentalités, construire un collectif, ce n'est pas forcément évident. En plus, on est sur des sports amateurs, non olympiques, en ce qui concerne la Fédération française de savate boxe française. Ça veut dire aussi que c'est des entraîneurs qui, bien souvent, font ça en plus de leur métier.
Aujourd'hui, on l'a vu, hein, les rôles sont parfois un petit peu redistribués. Il y a des préparateurs mentaux, notamment. Mais je me demandais dans quelle mesure le coach, l'entraîneur, doit-il garder le rôle central ?
Bien souvent, l'entraîneur connaît l'athlète depuis plusieurs années. Après, il y a des profils d'entraîneurs différents, hein, forcément. Hein. Moi, je suis plutôt un entraîneur qui suit très attentivement mes athlètes. Je ne leur parle pas simplement que de l'entraînement. Je leur parle de leur projet professionnel. J'essaye de les suivre en règle générale. En plus, on est dans un sport où il y a quand même une notion de risque qui est présente, puisque la boxe peut amener à un hors-combat, hein, ce qu'on appelle le chaos en anglais. Donc, à un moment donné, il y a vraiment une construction de vie qui se fait avec eux. Et c'est essentiel. Après, ça dépend forcément des points de vue des uns et des autres. Et puis, du tempérament, j'ai envie de dire, de l'état d'esprit des entraîneurs.
Justement, vous qui êtes entraîneur, souvent sur le sportif de haut niveau, on projette un peu cet idéal d'un esprit sain dans un corps sain. En quoi cela nuit-il parfois à la détection du mal-être ou de certaines problématiques psychologiques ?
Alors effectivement, si on se base uniquement sur la performance, on peut s'esquinter en faisant du sport. Donc moi, j'ai la chance d'avoir été athlète de haut niveau, d'avoir fait des études dans le domaine du sport, ce qui m'a forcément, donné un certain nombre de compétences qui me permettent, de savoir où sont les limites de chacun. C'est une de mes premières priorités, ne pas blesser mes athlètes, aussi bien physiquement que moralement. D'ailleurs, c'est fondamental. Et puis, d'instaurer une relation de confiance qui va permettre, dès que ça ne va pas, qu'un athlète puisse éventuellement parler. Si moi, je vois mes limites pour pouvoir intervenir, éventuellement, je peux l'orienter vers quelqu'un de spécialisé.
Justement, avec toute cette riche formation que vous avez, alors même si c'est personnalisé pour chaque athlète, quels sont quelques exemples, par exemple, de protocoles, enfin de choses que vous mettez en place avec vos athlètes?
Alors, par exemple, pour préparer le plus haut niveau, si j'ai un athlète qui va faire sa compétition à minuit, je fais l'entraînement à minuit. J'enregistre l'ambiance de ses tours précédents et je le mets à fond dans la salle. Il n'y a que nous, mais je mets ça. Je lui fais faire des visualisations où il imagine le gymnase où il est. On va sur le gymnase quand on peut, avant la compétition, pour qu'il s'imprègne des lieux. Ce genre de choses qui sont quand même assez réservées au niveau. Je le mets dans des conditions de préparation. Bien souvent, j'essaye en tout cas, avec du matériel adapté pour ne pas se blesser, dans des conditions un petit peu plus dures que ce qui sera attendu le jour de la compétition. En tout cas, je fais tout en sorte pour qu'à un moment donné, il ait cette notion de se sentir prêt. Il a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une préparation optimale, ce qui fait que le jour J, mentalement, il est prêt à affronter l'épreuve qui lui est imposée. Quoi.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Mazdois.
Merci beaucoup.
Justement, on va se recentrer sur le sportif de haut niveau. Ouais. Lui, peut-être, comment peut-il se puiser des ressources en lui-même pour essayer de trouver, entre guillemets, un équilibre, évidemment, c'est pas parfaitement, on n'est pas dans un monde parfait, mais un équilibre entre le physique et le psychologique.
Alors, ça, c'est clair que ça passe par les accompagnements. Donc, ils peuvent à minima avoir un accompagnement à la performance, donc en préparation mentale, qui va leur permettre de développer certaines compétences de gestion du stress, de régulation de leur attention, etc. Mais ils peuvent aussi solliciter un accompagnement psychologique, même si tout va bien, pour optimiser leur manière de s'adapter dans certaines situations, de vivre certaines situations qu'ils peuvent juger difficiles. Donc solliciter un accompagnement, c'est déjà une première étape pour s'armer. Et voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de s'armer. Après, il ne faut pas négliger le rôle du soutien social entre pairs, PAIR. Puisque les sportifs qui vont finalement discuter entre eux de leurs difficultés, ils vont finalement se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans leurs problématiques, ils ne sont pas tout seuls à aller pas bien de temps en temps. Les autres partagent aussi ça. Et avec leur partage d'expérience, ils vont aussi partager les solutions qu'ils ont trouvées les uns et les autres pour faire avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et donc ça, c'est très riche aussi. Donc favoriser aussi les temps d'échange entre sportifs, ça peut être vraiment très intéressant, tout comme les temps d'échange avec des sportifs qui sont des anciens sportifs.
Justement, tout à l'heure, vous parliez juste à l'instant de la compétence donc de l'entourage du staff technique en matière d'accompagnement mental. Quand c'est justement l'entraîneur qui est parfois aussi en difficulté, comment on peut lui aussi l'accompagner ?
Alors là, c'est pareil, dans un monde idéal, tous les entraîneurs seraient aussi accompagnés pour leur santé mentale, notamment parce que on en entend tous les jours des entraîneurs qui se plaignent des difficultés organisationnelles, des attentes des fédérations, des comportements parfois difficiles à gérer au sein des groupes qu'ils entraînent, etc. Et surtout, ils ont de plus en plus de missions extrasportives qui rendent leur vie vraiment difficile, et la conciliation entre la vie privée et la vie d'entraîneurs qui sont vraiment complexe à gérer. Donc dans un monde idéal, ils seraient tous accompagnés. Par contre, à l'heure actuelle, si l'évaluation de la santé mentale des sportifs de haut niveau est obligatoire pour les sportifs de haut niveau annuellement, elle n'est pas encore obligatoire pour les entraîneurs. Donc peut-être qu'il faudrait voir à ce qu'il y ait des évaluations régulières chez les entraîneurs pour leur santé mentale, éventuellement qu'il y ait des services au sein des établissements de haut niveau qui permettent d'accompagner les entraîneurs. Mais il y a des problèmes de ressources humaines, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on manque de psychologues, on manque de psychiatres pour travailler déjà avec l'ensemble des sportifs. Si en plus de ça, on ajoute une population supplémentaire que sont les entraîneurs, c'est un problème qui est impossible. Aujourd'hui, je pense qu'on manque vraiment de moyens humains pour accompagner les sportifs et leur staff sur cette dimension mentale.
Voilà donc pour Alexis Rochon. On va écouter maintenant la quatrième interview, celle de notre confrère Frédéric Brindel, qui a animé ce forum avec le brio qu'on lui connaît. Notre confrère donc de Sud Radio et de l'équipe au micro de Vanessa.
Bonjour Frédéric Brindel, vous avez une nouvelle fois animé une journée sur le sport de niveau, et aujourd'hui on parlait de santé mentale chez les sportifs de haut niveau surtout. Quelles sont un peu vos impressions sur cette journée avec les différents intervenants ?
En fait, il y a beaucoup de professionnels qui réfléchissent sur cette question et c'est heureux. Il y a beaucoup de solutions qui sont trouvées. Il y a une professionnalisation de l'encadrement des sportifs. Maintenant, il reste des zones de flou. Qu'est-ce qui fait que grâce à une préparation mentale on performe? Qu'est-ce qui fait que un sportif soit victime de troubles? Est-ce que c'est à cause de ses résultats? Est-ce que c'est à cause de l'encadrement? En fait, on est tellement dans l'humain que c'est très difficile d'être affirmatif, et on s'aperçoit que finalement ça reste une thématique passionnante parce que tellement vaste que il reste tellement de choses à faire.
De votre regard de journaliste, justement, on a parlé de la santé mentale des sportifs de haut niveau, mais on parle assez peu de celle des entraîneurs. Quel regard peut-être vous avez de votre expérience de journaliste ?
Sur les entraîneurs, moi, c'est vraiment des gens que je connais beaucoup parce que j'en ai eu beaucoup comme consultant et comme ami très proche d'ailleurs. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui sont victimes, il y a des entraîneurs qui sont coupables, il y a des entraîneurs qui vivent bien, il y a des entraîneurs qui vivent mal. Donc on ne peut pas généraliser. Simplement, je pense que moi, ce qui m'a marqué dans mes rencontres depuis plus de 30 ans avec les grands entraîneurs, c'est qu'il y a un moment où eux aussi, ils sont victimes de la petite mort. Et autant on se dit, un tel a été 3 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe, autant l'entraîneur a toujours ce doute de savoir s'il est vraiment associé à la performance et si dans l'histoire, on se souviendra de ce qu'il aura apporté à la victoire. Vous savez, qui a été champion olympique, on peut le dire, à Paris 2024. Qui sont les entraîneurs champions olympiques? Bon, évidemment, moi, je sais, mais je ne suis pas sûr que tout le monde s'en souvienne dans 10 ans.
Tout au cours de votre carrière et quand on arrive à aujourd'hui, est-ce que vous avez observé une évolution sur la médiatisation ou du moins la libération peut-être de la parole par rapport à ce sujet qui était encore assez tabou il y a encore quelques temps, qu'il l'est peut-être encore, mais en tous les cas...
Ben oui, alors il y a quelque chose qui se libère et en fait ça pose la question mais à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire le haut niveau, le sport chez les jeunes, le sport amateur. C'est-à-dire qu'on est dans une relation humaine où il y a des problématiques. Et moi, ce que je constate, c'est que notamment le rapport de force, de domination, d'autorité, il revient de fait à certaines personnes, mais il n'est pas toujours très bien géré. Et un coach peut se sentir tributaire de toute la notion d'autorité autour d'un athlète, tout comme des parents d'enfants peuvent imaginer donner des conseils au coach. Alors, on imagine que le schéma, c'est laisser faire les professionnels, mais des fois, il y a des professionnels qui passent à côté et il y a des entraîneurs qui sont dangereux. Il y a des parents qui sont positifs, il y a des parents qui sont négatifs. Et encore une fois, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tellement vaste, on est dans l'humain, que c'est très 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 difficile de tirer des enseignements en disant les entraîneurs sont bien, les entraîneurs sont pas bien, les coachs, les sportifs, les parents, les encadrants, les sponsors. C'est comme partout, il y a des bons et il y a des pas bons.
Merci beaucoup.
Merci. Voilà pour notre ami donc Frédéric Brindel. On finit avec la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, donc Marie Barsac. Vous allez voir, on a fait une petite allusion en fin d'interview donc au match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Alors, je suis avec Madame la ministre. Madame la ministre, sympa une telle journée. Important, hein, un thème comme aujourd'hui.
Oui, très important. La santé mentale de nos sportifs est une priorité. Vous le savez, on a un engagement fort avec une stratégie cette année dans le cadre de la grande cause. L'année dernière, c'était la grande cause de l'activité physique et sportive. Cette année, c'est la santé mentale. Et le sport est vraiment un médicament, comme ça a été souligné par beaucoup d'intervenants, pour être en meilleure santé mentale. Évidemment, nos sportifs de haut niveau doivent être aussi l'objet de toute notre attention, parce qu'eux aussi, avec la pression, la performance sportive, ils vivent des moments qui ne sont pas faciles et sur lesquels il faut absolument les accompagner.
Oui, est-ce qu'il ne faut pas un peu clarifier la situation quand même? Parce qu'il y a les coachs, il y a les psys, il y a les entraîneurs. C'est peut-être un petit peu compliqué parfois, même au niveau des fédérations.
En tout cas, aujourd'hui, je crois que l'ensemble des acteurs sont mobilisés. Donc l'INSEP est un peu chef d'orchestre, notamment pour tous les athlètes qui sont à l'INSEP, travaille en collaboration avec les fédérations, avec les clubs, pour apporter le meilleur accompagnement aux athlètes. Donc c'est effectivement important de ne pas noyer les athlètes sous beaucoup de sollicitations, de plutôt les guider. Mais cet accompagnement, il doit être organisé, effectivement. Et c'est vrai que le rôle de l'INSEP comme chef de file est important.
Justement, dans le cadre de la santé mentale, quelles sont les limites que vous fixez à votre pouvoir d'intervention sur les fédérations qui sont en charge, hein, officiellement, de la préparation mentale des athlètes?
Alors, je ne leur fixe pas forcément des limites. Je les encourage surtout à accompagner au mieux leurs athlètes et travailler avec leur staff médical pour à la fois sensibiliser les athlètes, faire de la prévention auprès d'eux, notamment sur les enjeux de réseaux sociaux dont on a parlé, mais surtout les accompagner dès qu'il y a des premiers signes de difficultés mentales, de souffrance mentale. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement important que les fédérations mobilisent leur staff médical sur ces enjeux.
Et alors le ministère, quels sont les dispositifs qui sont mis en place, notamment en partenariat avec les fédérations, sur ce problème de la santé mentale et quel est un peu, je dirais, le périmètre de chacun?
Alors ce qui est important, c'est qu'effectivement chacun travaille en complémentarité. Il faut que les athlètes puissent se sentir accompagnés, mais de façon très fluide et très organisée. Donc pour les athlètes qui sont à l'INSEP, c'est le chef de file, c'est bien l'INSEP, qui travaille en coordination avec les fédérations, avec les clubs, pour bien accompagner les athlètes. Et puis il y a des outils aussi qui ont été développés, notamment pour parler aussi aux sportifs qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais qui sont des sportifs dans leur club. Et donc on a une plateforme aussi qui donne des outils aux clubs pour qu'ils puissent eux aussi mieux identifier la souffrance mentale chez certains de leurs adhérents et pour les guider vers des solutions pour aller mieux.
Et puis on a vu aussi beaucoup de jeunes, hein, qui sont dans la déprime à travers les réseaux sociaux.
Oui, alors les réseaux sociaux ont du bon, mais ils ont aussi du moins bon. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Là aussi, hein, il y a des besoins de sensibilisation, d'explication. Donc c'est pour ça que des colloques comme aujourd'hui sont importants, parce qu'ils permettent de faire prendre conscience de ces enjeux sur les réseaux sociaux. On n'en a pas forcément conscience. On s'en rend compte peut-être après, quand on a été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, ou qu'on vit mal les choses, qu'on se sent déconnecté aussi de la vraie vie. Donc les actions de prévention sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça qu'il faut la mobilisation de chacun sur des colloques comme aujourd'hui.
Bon, vous qui avez beaucoup œuvré pour Paris 2024 et pour l'héritage, on en est où pour l'héritage aujourd'hui? Ça va, il y a des choses qui avancent quand même.
Oui, tout à fait, l'héritage est en marche. Alors l'héritage matériel, je crois que le mouvement sportif français est ravi d'avoir pu récupérer bon nombre de matériel sportif qui a été utilisé par nos champions pendant les Jeux. Et puis il y a des nouveaux équipements sportifs qui ont fleuri aussi beaucoup en France, donc ça c'est important. Et sur les enjeux plus sociétaux, la place du sport à l'école, avec les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, continue de se déployer pour qu'on atteigne les 100%, bien évidemment. Et la dynamique des clubs inclusifs pour ouvrir aussi des lieux de pratique de proximité partout en France pour les personnes en situation de handicap continue de se déployer, et c'est aussi une très bonne chose.
Dernier petit mot, tous derrière le Paris Saint-Germain, c'est ce que vous avez dit, hein, faut tous être solidaires derrière le PSG.
Oui, je crois que quand on est français, on doit être fier d'avoir un club à ce niveau-là de la compétition, donc bien sûr, on est tous pour le PSG.
Merci. Voilà, c'était le 21 mai, hein, juste avant la finale de samedi soir. Ça a porté chance apparemment donc, à l'équipe parisienne. Vous avez suivi le match, Delphine, ça vous plaît le foot?
Oui. J'ai suivi le match avec mon fils et mon mari, et on a vraiment assisté à une très belle démonstration d'une belle équipe.
Enfin.
Unie, soudée, enfin. Une âme. Ouais. Et bah voilà, ça paye quoi. Quand il y a le coach, je pense, y est pour beaucoup dans cette construction. Sûr. Donc c'est pour ça qu'en fait un athlète tout seul, qu'il soit en équipe ou pas, il est rien sans le staff. Il a besoin d'un encadrement qui soit solide et qui parfois lui dise non, parce que parfois on est un peu persuadé qu'on a la science infuse et qu'on a toujours raison. Et on est effectivement tout à fait centré sur nous-mêmes, parce que c'est l'exigence du haut niveau. Mais il faut prendre du recul, et les coachs sont aussi là pour ça.
Et l'héritage dont parlait la ministre?
Alors l'héritage...
Bon, les Jeux, ça fait presque un an, on les a vécus, ça a été une fête fabuleuse. Il y a eu quand même des avancées, on est dans la bonne direction?
Alors en tout cas, je dirais que moi qui ai beaucoup bougé sur Paris et puis Châteauroux pour le tir... On a vraiment vécu des moments extraordinaires, vraiment une vraie communion avec tous ces gens qui se sont déplacés. Alors nous, sur Châteauroux, en fait, il y avait des gens qui connaissaient rien du tout au tir. Ils se sont complètement pris au jeu. Ouais. Alors comme il y avait justement la possibilité pour les gens qui venaient d'essayer le tir, c'était plein en permanence. Mmh. Et puis les gens dans les tribunes étaient... ils étaient
c'était
vraiment...
La fête, quoi.
Ouais,
c'était...
voilà. Et puis j'ai participé aussi au marathon de Paris pour tous.
Ah bien,
voilà.
bien.
Et là,
en pleine nuit, ça a dû être fabuleux.
Alors oui, et puis la fin de la journée, il y avait des smiles sur tous les visages. En fait, les gens étaient heureux. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite... dépression, c'est ce qu'on vit aussi en tant qu'athlète après les Jeux. Quand les Jeux sont... ça est un peu dur.
Il y a eu les paras.
Ah oui, non, moi je parle
après,
de l'ensemble.
Hein,
je parle vraiment
comme nous tous.
Après les paras. C'est-à-dire, il y a eu les JO, les JOP, effectivement. Tout était... mais juste après ça, donc moi je parle bien du mois de septembre, on sent que les gens s'étaient habitués quoi, à ça. C'était dopant, entre guillemets, un dopage positif. Et le retour à la réalité a été quand même, je pense, difficile pour toutes et tous. Et autant, oui, il y a une forme d'héritage, bien sûr, qui a été véhiculée par toutes ces médailles, tous ces athlètes, tous ces sourires, tous ces gens qui sont venus, qui se sont déplacés. En revanche, moi, je suis un peu déçue de l'après en termes d'aide et d'accompagnement, que ce soit des clubs, du Comité national olympique et sportif français. Je trouve que le sport... a montré une très belle image de ce qu'ils pouvaient faire avec des moyens qui ne sont pas ceux d'autres grands ministères. Et malgré tout, on tape quand même dans son budget, alors que c'est quand même le plus faible, soyons clairs. Alors qu'en réalité, quand on voit ce que peut donner un petit budget, ce qu'on en retire réellement, c'est-à-dire tous ces jeunes qui vont s'amuser à pratiquer des sports, à essayer, à changer en fonction des âges et des envies, Ben, j'ai l'impression que ça ne suit plus, quoi, de ce niveau-là. Alors, bien sûr qu'il nous reste les équipements, mais il faut des gens pour les faire tourner. Il faut... Alors, il y a du bénévolat encore, mais de moins en moins quand même. Et du coup, on a besoin de poursuivre cet élan-là. Il ne faut pas qu'il s'éteigne. Donc, j'estime qu'on doit tous se mettre autour de la table pour trouver des solutions, pour aider tous nos jeunes et nos moins jeunes à continuer l'activité physique. Parce que c'est, enfin, il y a des analyses et différentes études qui ont été réalisées et qui prouvent que l'activité physique, elle est bonne pour la santé, à la fois physique et mentale. Et je crois qu'on se rend pas assez compte de ça. Et voilà. Enfin, moi, c'est ça hein, que je vais retenir. C'est oui, bien sûr qu'il y a un héritage, mais maintenant il faut qu'il se poursuive vraiment et qu'il y ait un accompagnement. Alors, on parle toujours des finances. Certes, il en faut un minimum, en fait, pour que ça tourne. Parce que sinon, ça va retomber. Et ce serait vraiment dommage. On était sur une belle vague. Je pense que les Français se sont tous sentis complètement intégrés à ce bel événement sportif. Que ce soit, d'ailleurs, effectivement, au niveau olympique ou paralympique, les gens se sont éclatés, quoi. Et ils ont découvert des sports. Et je pense que ça leur a donné envie aussi d'essayer quelque chose et de se bouger. Et de se bouger, pourquoi pas, en famille. Parce que c'est aussi ça, le sport, c'est la communion, c'est les échanges. On crée des relations, on crée de l'amitié aussi, et de l'amitié qui dure. Donc c'est ça, je pense que c'est vraiment très important. Et cet héritage-là, il faut le conserver.
Sébastien, vous qui avez été aussi très sollicité hein, pendant ces Jeux, il y a eu un effet JO pour votre sport? Il y a eu davantage de pratiquants, de licenciés?
Oui, tout à fait. Moi, je travaille pour la Ligue régionale de tir Île-de-France. Et on s'aperçoit qu'au mois de septembre, octobre, il y a eu des personnes qui sont venues dans les clubs de tir à découvrir grâce aux Jeux Olympiques, hein, comme tous les 4 ans. Donc, merci les Jeux. Mais effectivement... merci les Jeux, parce qu'il y a eu quand même la période de la Covid où il y a beaucoup, on parlait de santé mentale. Et après la Covid, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'arrêter. Et grâce aux Jeux, je pense qu'ils ont donné envie de refaire du sport, de reprendre les activités physiques. Et comme disait Delphine, effectivement, faire du sport, ça guérit beaucoup de choses, aussi bien mentale que physique. On est moins malade, on est plus en forme. Donc faites du sport, c'est vraiment très important. Oui. Peu importe le sport.
Et là, il y a combien de clubs en Ile-de-France?
En Ile-de-France, donc, il y a 167 clubs et on est pratiquement à 37 000 licenciés.
D'accord. Tout âge confondu, parce que l'avantage de votre sport, c'est que...
Alors, c'est l'avantage chez nous, c'est qu'on peut être très jeune, très vieux, petit, grand, maigre, costaud, pas de bras, pas de jambes, déficient visuel, on peut faire du tir sportif. Ça, c'est vraiment... le top. Concernant donc au niveau pourcentage, j'ai regardé tout à l'heure, on a 11% de femmes donc en Île-de-France et on est pratiquement à 2000 sur les 37 000 licenciés, on est pratiquement à 1500 jeunes qui ont entre 8 et 18 ans.
Ah, c'est bien. Et il reste donc les jeunes qui
viennent. Oui, il reste. Ouais. Donc grâce à, on a tellement de disciplines, tellement d'épreuves qu'on arrive à garder ces jeunes. Donc, même s'ils font du sport à côté, hein, moi, je m'occupe de jeunes pour la performance et on les encourage à faire autre que du tir sportif. Parce que le tir, chez nous, c'est du... beaucoup de disciplines sont des sports statiques et nous, on veut aussi que les jeunes puissent aussi... aller courir, faire du hand, du rugby, du foot, n'importe quel sport qui bouge pour qu'ils travaillent leur physique, mental et physique, et le cœur. Parce que le cardio, il est très important. Surtout nous, on est en statique. Donc les émotions, moi je me rappelle quand j'étais athlète de haut niveau, mon cœur battait pratiquement à 180 degrés sans bouger. Donc les émotions sont très très fortes. Donc il faut travailler aussi le cœur. Donc il faut absolument faire du sport physique, forcément.
Oui. Delphine, c'était votre cas? Footing,
oui.
Vélo.
Alors exactement. Ouais. Moi, alors vélo dans un premier temps, et puis après, je me suis vraiment pris d'amour pour le running et pour la course à pied, donc que je pratique toujours d'ailleurs.
Oui, c'est bien.
Moi, j'ai au repos, mon cœur doit être à 47.
Ah oui.
Ça va bien.
Encore sportif de haut niveau, hein.
Ouais,
c'est un cœur
ouais, non, ça marche bien. Et puis quand je cours, je suis entre 140 et 150. Après, ça dépend bien sûr comment on pousse sur les jambes et donc sur le cœur. Mais c'est clair que quand on pratique un sport qui est très mental, on a besoin aussi d'avoir une activité physique plus intense parce que ça permet de se libérer aussi la tête. Mm-hmm. C'est-à-dire quand on court, on réfléchit moins, on pense moins et on est plus dans son corps physique en fait. Alors que lorsqu'on pratique le tir sportif, on est dans sa tête, énormément dans sa tête. Alors bien sûr, il faut un certain physique pour tenir le stress d'une compétition, mais pour moi, hein, c'est vraiment primordial d'avoir une activité à côté. Et c'est vrai que la course à pied, alors moi je suis plutôt course à pied en forêt, parce que voilà, c'est...
C'est vrai que pour bien connaître le coin, il n'y a pas d'excuses à Saint-Lisa.
Voilà, exactement. Hein, ouais. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai besoin de me ressourcer en fait, clairement.
Ouais, mais est-ce que le poids est important ? Alors, est-ce que si on prend 1 ou 2 kilos, ça peut jouer sur une performance ?
Alors, ça dépend des athlètes.
Oui.
Il faut être vigilant. C'est-à-dire que, parce que alors nous, comme on tire, le tir au plateau, c'est comme avec un fusil, voilà, du coup, on a une crosse. Bah, en fonction de si on prend plus ou moins de joues, bah, le réglage est différent. Il faut faire attention au réglage de l'arme par rapport à la prise de poids ou l'inverse. Donc, il faut toujours être très attentif et contrôler quand même ces réglages. Et effectivement, quand on est en surpoids, on va plus vite se fatiguer. On va moins bien gérer la pression, parfois, ou pas. Ça dépend vraiment des athlètes. C'est-à-dire, moi, je connais des athlètes qui sont plus costauds et qui s'en sortent très bien. Mmh. Donc, mais c'est vrai que lorsque l'on... Là, par exemple, j'ai participé aux régionaux d'Île-de-France très récemment.
Ah, parce que vous continuez à...
C'était juste
c'était pour le fun.
C'était pour le fun, pour faire plaisir à mon papa qui est arbitre.
Ouais.
Et ça faisait 2 ans que je ne m'étais pas entraînée. Là, franchement, physiquement, on a tiré 125 plateaux sur une journée, plus d'ailleurs, parce qu'il y avait la finale. Donc, on était plutôt près de 175, d'ailleurs, dans une journée. Je n'ai pas senti, quoi. C'est-à-dire qu'il manquait un peu de technique et de se rappeler un peu comment. Voilà, mais j'ai remis en place mon schéma. Je ne m'en suis pas trop mal sortie. Et j'ai pris du plaisir en plus. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué. Et là, j'étais vraiment. Et c'était une compétition. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un souci avec l'entraînement, c'est que je m'ennuie vite. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, du coup, c'est plus difficile pour moi à l'entraînement. Donc, j'essaie vraiment de me focaliser sur la partie technique. Alors que quand je suis en compète.
Ah oui, c'est différent.
Je suis en compète, quoi. Donc,
Sébastien me disait pareil, en off. Il me dit, moi, il n'y a que la compétition qui m'intéresse, hein, Sébastien.
C'est ça. Bon, après, évidemment, il faut s'entraîner pour évoluer dans la performance. Mais effectivement, moi, c'est compète. Hein.
Ouais.
Moi, le loisir, je ne sais pas ce que ça veut
vous
dire.
Vous faisiez attention à ce que vous mangiez,
Moi, c'est le bien-être. Ouais. Esprit sain dans un corps sain.
Ouais.
Donc, dès que je prenais un peu de poids, je n'étais pas bien. Donc,
mentalement,
on n'est pas bien. Et puis ici, il n'y a pas que le match. Il y a aussi l'avant le match, avant match.
C'est hyper important. Parce qu'il y a les
déplacements, soit en car, soit c'est en avion. Des fois, nos armes, ils n'arrivent pas à l'aéroport, donc il faut rester 6 heures. Mon record, je crois que c'est 20 heures à l'aéroport pour attendre mon arme, parce qu'il est parti à Atlanta,
ou
partir en Corée. Donc c'est hyper important aussi le physique et de faire, moi en tout cas, faire attention au poids. Comme disait Delphine, chacun est différent.
Ouais.
Mais moi, comme je suis un enfant qui était obèse, donc j'ai perdu beaucoup de poids grâce au sport, parce que pour moi, un athlète de haut niveau, pour moi, attention, dans l'esprit, pour moi, c'était un athlète donc bien musclé, bien beau sur les podiums. Et donc, je refusais d'être obèse. Donc, je me suis battu pour vraiment avoir un corps sain et beau. Et moi, dès que je prends du poids, et là, malheureusement, vu que je fais moins attention et tout, donc parce que je fais beaucoup de choses pour la Ligue, parce que mon but maintenant, c'est de gérer les championnats dont Delphine a partagé. Donc, je fais moins attention, malheureusement, mais je vais me reprendre parce que mentalement, je ne suis pas bien. Donc, effectivement, c'est hyper important.
Alors, vous me disiez que vous étiez timide avant le tir.
Exactement.
C'est un bel exemple, hein.
Moi, j'étais à l'école, j'étais très timide, manque de confiance en moi et tout. Alors, j'avais des super bonnes notes, mais dès qu'il fallait prendre l'oral, c'était l'enfer pour moi. Et puis, grâce aux athlètes de haut niveau, j'ai commencé à faire des podiums nationaux, internationaux. J'ai eu de la confiance et puis...
Des interviews télé-radio.
Oui, voilà, maintenant, grâce à Delphine, je suis avec vous. Donc, Et j'ai eu cette image un jour, j'aimerais bien un jour, si, avec la fédération, parce qu'il y a des fédérations qui font des films. Et moi, je me suis toujours imaginé où un enfant qui est à l'école, comme moi, hyper timide et tout, il rentre sur un pas de tir, il s'entraîne, et puis un jour, il devient chef d'entreprise. Parce que bah, grâce à notre sport, et comme parmi tant d'autres, hein, évidemment, nous, on ne parle que de notre sport, hein, qu'on connaît très bien, et bien, grâce à ça, ça a permis d'apporter de la confiance et permis de s'exprimer correctement, d'être posé, d'être calme. Voilà, donc merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce sport. Et merci Delphine, hein, parce que grâce à elle, je connais encore plein de choses. Donc merci encore.
Bah, merci à toi.
Ouais. Et quels sont vos axes d'action donc, à la Ligue régionale maintenant, les priorités?
Alors moi, j'ai deux actions. Donc je suis responsable des compétitions. Donc je gère à peu près une quinzaine de championnats régionaux. Donc un championnat régional, hein, le but, hein, c'est de se qualifier au championnat de France. Donc c'est important pour les athlètes. Donc je fais de mon mieux pour que les championnats se passent le mieux possible, pour que aussi bien les athlètes que les arbitres, parce que si on n'a pas d'arbitre, il n'y a pas de championnat.
Ouais. Ça va, ça se passe bien.
Super.
Pour l'arbitrage, il n'y a pas de contestation.
J'ai que des bonnes notes. Bah après, s'ils contestent, c'est voir les athlètes. Mais moi, par rapport à l'organisation, le championnat, le plan de tir, tout le monde est satisfait. Bah, je l'espère en tout cas. Et concernant aussi, j'ai une autre acte, c'est responsable des entraînements, c'est-à-dire que le but, c'est de détecter des jeunes. Ah oui. Donc, on a plusieurs disciplines dans notre sport, on en a 12. Et les axes les plus importants, ce sont les épreuves, les disciplines olympiques, donc pistolet, carabine. Donc, on a différentes distances aussi, 10 mètres, 25, 50 mètres. Il y a aussi la fosse olympique, Delphine pratique le ski olympique, j'ai de l'arbalète. Et donc, tous ces jeunes, dès qu'on détecte qu'ils ont quelque chose d'intéressant, eh ben, on organise des stages avec des entraîneurs qui ont un diplôme. Et le but, c'est de les faire évoluer par rapport à leur niveau pour aller jusqu'au Championnat de France. Et puis après, c'est la fédération qui prend le relais. Donc, moi, je me situe entre le club et la fédération.
Ouais. Alors, vous avez choisi le revolver.
Alors, moi,
pourquoi
j'ai choisi le pistolet.
Le pistolet, oui.
Alors, au début, je faisais les deux. C'est-à-dire que quand on arrive dans un club de tir, on ouvre la porte, on ne sait pas où on va. Alors, moi, je savais où j'allais parce que mon papa faisait comme Delphine la fosse olympique, donc il faisait du tir. Et moi, j'étais très Jeux olympiques. Moi, je suis rentré en 89 et à cette époque-là, c'était Jean-Pierre Amat qui était champion olympique en 92. Il y avait Franck Badiou, il y avait des posters, donc je voulais absolument être comme eux. Et donc, j'ai voulu tirer aussi bien la carabine qu'au pistolet. Donc, j'ai pu découvrir les deux armes. Mais à un moment donné, quand on commence à être bon sur les deux armes, parce que j'étais en Championnat de France et j'étais au top 10, aussi bien carabine que pistolet, quand on passe à être cadet junior, en équipe de France, il faut choisir. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, j'ai choisi le pistolet, donc parce que c'est un feeling après. C'est c'est pas facile de détecter, mais je préférais plus pistolet que carabine.
Mais enfin, on est bon aux deux, quoi.
Je pense qu'un tireur qui a déjà Delphine, elle peut prendre une carabine ou un pistolet.
Elle va
toucher la cible au milieu de la cible parce qu'on est tous conditionnés à tellement travailler sur notre séquence de tir, notre manière de bien faire, d'être rigoureux sur ça, que n'importe quelle arme, on touchera le milieu de la cible. Après, c'est l'endurance qui
main gauche, main droite.
Alors, oui.
Je sais, vous en avez parlé aussi hors antenne.
Oui, effectivement, j'étais droitier avant Jeux de Sydney que j'ai supporté derrière la télé parce que malheureusement, je n'ai pas été sélectionné aux Jeux de Sydney. Donc, j'ai supporté Delphine et donc elle a fait une médaille olympique. Et donc, je me suis blessé pour mon métier qui, à la base, était fonctionnaire de police. Et donc, quand je suis revenu à l'INSEP, j'ai vu que je ne touchais plus la cible. Et donc, j'ai décidé de changer de bras grâce à mon entraîneur qui s'appelle Michel. J'espère qu'il écoute. Et puis, 8 ans après, je suis revenu au niveau avec ma main gauche.
Oh,
donc, j'ai changé mon œil aussi. Donc, et pendant 4-5 ans, je suis resté au niveau. Donc, merci encore à la fédération aussi de m'avoir fait confiance. C'était du bonheur, que du bonheur.
Et vous, Delphine, c'est donc la fosse. Ça arrive comment ? C'est un amour familial, je crois.
Oui, alors moi, mon papa m'a baigné dedans très tôt. Donc en fait, à l'âge de 9 ans, il participait à ce qu'on appelait à l'époque des baltrapes de campagne. N'est-ce pas, avec les bottes de paille. C'était assez sympa et convivial. Et puis, moi, je trouvais ça drôle de casser des assiettes qui volent. Et donc au début, j'ai commencé avec un tout petit calibre. Alors, il y avait aussi souvent des tirs carabine.
Exactement.
À plomb. Et je me suis essayée aussi à la carabine à plomb, parce que forcément, ce que disait Sébastien, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'au début, bon, on ne sait pas trop. Alors là, bien sûr, moi, j'avais mon père qui était plutôt fausse. Donc, je l'ai suivi. C'est vrai que j'ai essayé la carabine. C'était trop statique pour moi. J'avais besoin de bouger un peu, ce que m'a apporté le plateau. Parce que le plateau, en fait, on tire sur des cibles mouvantes.
Oui, donc,
voilà, donc c'était plus adapté à moi. Bon, il faut savoir quand même que je suis myope et astigmate. Donc, ce n'était pas gagné au départ. Mais bon, comme quoi, avec une bonne correction, on s'en
comme
sort.
Comme quoi, ouais, on peut tout, ce sport, on peut tout faire. Hein.
Ben,
ouais,
c'est ce qu'il disait. Ouais, il a raison, c'est tout à fait vrai. Alors au début, j'ai commencé par ce qu'on appelle chez nous la fosse universelle. Donc c'est une discipline qui est non olympique, donc à peu près le même principe, sans rentrer dans le détail. Et à un moment donné, ce que disait Sébastien, moi je faisais les deux. Et en 94, en fait, je participe à mon premier championnat d'Europe en FU et en FO, donc fosse olympique. Et là, j'ai pareil, moi les jeux. Il y avait que ça qui m'intéressait. À l'époque, c'était pas, enfin, on était mixte. On était mixte, enfin mixte, pas tout à fait, parce qu'en 92, en fait, une Chinoise a battu les hommes en ski olympique, et alors là, on n'y était plus. Donc, j'attendais avec impatience que l'on récupère cette discipline. Et en 96, il y a une autre discipline qui a été portée, où il y avait une catégorie d'âmes, ça s'appelle le double trap, qui n'existe plus aujourd'hui au niveau des Jeux olympiques. Et puis, j'ai attendu, et en 97, on apprend qu'on ouvre la catégorie en fosse olympique. Dame, du coup. Et là, je me dis, bah, moi, je veux aller là-bas.
Allez,
je veux aller aux Jeux. Je veux aller. En plus, j'adore l'Australie. J'ai envie d'aller là-bas, vivre mes premiers Jeux. Et du coup, bon, moi, je poursuivais mes études en même temps. Donc, il fallait pas que je me loupe, parce qu'en plus, j'avais eu des difficultés scolaires. Donc, il faut savoir que c'est quand même le sport qui m'a remis sur les rails, professionnellement parlant.
Ça, c'est important.
Parce que ça, faut quand même le souligner. Ouais, moi,
ça,
au début. Au début, j'étais en échec scolaire, j'ai redoublé deux classes en primaire, donc autant dire que j'étais plutôt pas bien partie. Mmh. Après, je suis repartie sur un BEP, puis après, bah voilà, j'ai fait un bac plus 5, et puis aujourd'hui...
Ouais, une belle reconversion.
Voilà, une belle reconversion, n'est-ce pas ? Donc, c'est juste pour dire que c'est quand même le sport qui m'a remis le pied à l'étrier, qui m'a donné des envies d'objectifs, et donc c'est pour ça que, au moment des Jeux de Sydney, en fait, j'étais en train de passer des examens, pour partie professionnelle. Et je m'étais dit, bah, c'est simple, je passe mes examens en novembre. Je venais de gagner le quota pour les Jeux de Sydney, bon, quota non nominatif, hein, donc il fallait encore gagner sa place pour aller aux Jeux. Ça, c'était là, en 2000, début 2000. Et donc, en novembre, je passe mon diplôme et je dis, bah, c'est simple. Si j'ai mon diplôme, je me consacre. Donc, les résultats, c'était janvier, février 2000. Je ne me consacre qu'aux Jeux pendant un an et je travaille en janvier 2001. Et si je n'ai pas mon examen, eh ben ce sera priorité à mes études et je ferai les Jeux, mais pas de la même manière en tout cas. Et bah ça, je me suis tellement mis la pression que bah, j'ai eu mon diplôme hein, quand même, parce que je ne voulais pas trop me louper sur les Jeux. Et je suis partie à Sydney. Alors j'ai gagné la Coupe du Monde pré-olympique donc quelques mois avant les Jeux, donc ce qui mettait un peu de pression quand même. Mais j'étais tellement heureuse quand j'ai reçu mon équipement pour partir aux Jeux.
Quelle fierté.
Non, mais là, c'est le
quelle
rêve.
Fierté, quoi.
Porter l'équipement français, aller défendre ses couleurs là-bas, loin. Je suis partie seule, hein, sans mon entraîneur personnel, parce que j'avais même pas d'entraîneur. Parce que, en fait, le coach de l'époque n'avait pas été retenu pour partir. Donc, je suis partie vraiment. Alors, j'ai été entraînée, bien sûr, auparavant, mais après, sur place, bah, roule, quoi.
Ah
ouais, non, c'était un peu particulier cette époque-là. Mais comme quoi, c'est dans la douleur qu'on se construit. Hein. Ouais, donc, c'était pas simple. Mais par contre, j'ai été très bien préparée par mes coachs respectifs, à la fois celui de l'équipe de France et puis mon entraîneur personnel. Et du coup, je suis partie sur ces Jeux. Mais ce que m'avait dit mon entraîneur personnel, c'est savoure chaque instant, chaque seconde, comme si c'était un repas merveilleux et profite, quoi.
Ouais.
Et. Donc, je suis partie dans cette optique-là. Alors, j'ai très mal dormi la veille du match. Le poids du dossard était quand même assez lourd. Donc, j'ai mal entamé mon match. Et puis après, je me suis dit, bon, stop, on arrête. Maintenant, tu y vas, quoi. Tu y es. Donc, qu'est-ce que tu vas perdre ? Rien.
Bien sûr.
Et donc, c'est là que je me suis relancée. Et c'est vrai que cette médaille, je l'attendais. Je l'attendais parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé pour ça.
Ça aurait été une déception si
j'avais pas eu de médaille. Vraiment. Et même quand je suis arrivée sur place et que bah, les journalistes qui à l'époque connaissaient quand même peu le tir, un peu mieux maintenant, mais pas trop à l'époque, ça fait quand même 25 ans.
Ah, oui.
Et ils se sont dit, quand ils m'ont demandé mes ambitions, je lui ai dit, gagner. Mm-hmm. Ils sont tous tombés un peu de leur chaise. Je leur ai dit, c'est parce que je sais que je peux le faire. Après, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, mon ambition, vous me la demandez, je vous la donne. Mm-hmm. Je fais deuxième. Je n'étais pas si loin que ça de mon objectif. Et après, c'est toujours pareil, une carrière, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, j'ai eu des hauts, des bas.
Ça se gère comment, après, au retour
Alors, il y a toujours quand même cette partie dépression. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que la flamme est éteinte, on se dit, bon...
Tous les sportifs le disent. Hein. Tous,
c'est terrible, parce que c'est 4 ans, c'est à la fois court et long. Ouais. Il faut recommencer le parcours, gagner un quota, se sélectionner. Et après, une fois qu'on est sur place, performer. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Mais c'est vrai que tout au long d'une carrière, en fait, on apprend beaucoup. Moi, je notais beaucoup de choses. Hein. J'écrivais énormément pour justement... Parce que souvent, c'est aussi une manière de libérer la parole et
C'est une thérapie, quoi.
Ouais, c'est une forme de thérapie. Ouais, ouais. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et quand j'ai gagné le quota pour les Jeux d'Athènes, mais que je ne suis pas partie, je n'ai pas été retenue, là, ça a été une grosse descente aux enfers. Là, je l'ai vraiment vécu comme une injustice. Il a fallu que je me batte pour me reconstruire parce qu'en fait, c'était simple. C'était où j'arrête, où je poursuis. Et comme je n'ai pas tendance à m'arrêter comme ça, j'ai dit non, je ne peux pas m'arrêter sur un échec. Il faut que je poursuive. Mm-hmm. Voilà, et puis jusqu'au jeu de Londres.
Et Pékin, ça s'est passé comment?
Alors, Pékin,
il y avait Pékin entre-temps quand même.
Oui, il y a eu Pékin. Alors, Pékin, j'ai été sélectionnée. Le problème que j'ai rencontré sur Pékin, c'est comment je gère à la fois mon activité professionnelle et sportive. Oui. Donc là, j'ai rencontré des difficultés. J'ai été aidée par mes patrons de l'époque qui m'ont, payé un coach pour m'organiser. Sauf que je me suis libérée un peu tard pour ces Jeux, dans ma tête. J'étais pas prête en arrivant dans ma tête. En fait, physiquement, techniquement, oui, mais la tête n'y était pas. Donc, je suis partie de là, pareil, sur les marches du stand de tir de Pékin. J'ai dit, toujours pareil, je peux pas en rester là. Parce que, en fait, je sais que je peux faire mieux que ça. Eh bien, c'est pas grave, c'est reparti pour un tour. Et du coup, je me suis servie à chaque fois de ces échecs-là, parce que j'ai beaucoup plus appris dans mes échecs que dans mes victoires, en fait. Mmh. Et je me suis reconstruite. Il y a plein de choses que j'ai revues, parce que j'ai eu une blessure à l'épaule, j'ai eu quelques petits soucis physiques, mais qui m'ont permis vraiment de rebondir et de me reconstruire. Et après, j'ai suggéré, d'ailleurs, pour Londres, j'ai réuni tout le monde autour de la table, mes patrons, la Fédé, et on a défini un plan ensemble. On a tous validé en bas de la page. Ça change tout. Mmh. S'organiser, prévenir, et c'est ça ta force, justement, à la Ligue. Sébastien, c'est ça que je voulais dire quand même et rajouter, c'est qu'aujourd'hui, il est plébiscité parce que tout est carré. Mais pourquoi tout est carré? Parce que c'est un ancien athlète de haut niveau et que sa vie sportive, tout était programmé. Et puis, tu prévois, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais en tout cas, un maximum de précautions. Et du coup, quand il arrive, un inconvénient, une broutille, on est capable de le gérer parce qu'on s'est préparé à ça. Et c'est ça sa grande force et c'est pour ça que ça se passe aussi bien aujourd'hui.
Les résultats sont bons d'une façon générale. Hein.
Tout à fait. Ouais.
À chaque Olympiade, il y a pratiquement toujours des médailles, y compris pour le handi.
Oui.
Oui. Hein,
oui. Oui, tout à fait. Donc déjà, félicitations encore à Camille, qui a quand même fini deuxième aux Jeux Olympiques, au pistolet. Donc félicitations à Camille. Et on part à tir, effectivement. Donc il y a Tanguy de la Forêt, qui est licencié en Île-de-France, en plus. Donc bonjour Tanguy. Qui a fini champion olympique en carabine, donc bravo à lui. Et c'était aussi également que du bonheur. Et effectivement, donc, au niveau de la Ligue, je gère aussi un groupe de paratir. Donc je passe le coucou à tout le monde. Et c'est que du bonheur. Alors pareil, comme disait Delphine, il faut anticiper. Ce n'est pas du tout le même public. Parce qu'eux, ils ont déjà, les pauvres, ils ont déjà un problème au niveau santé. Donc moi, je peux pas, les jeunes que j'encadre, quand je leur demande de partir à 8h de l'hôtel, parce qu'il faut être à 8h au stand, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, les paras, en fonction de leur santé, des suivis médicaux et compagnie, c'est plutôt à nous de s'adapter. C'est pas à eux de s'adapter à l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui doit s'adapter. S'ils me disent, demain matin, je peux pas être à 9h parce que autrement, je me lève à 4h du matin, c'est pas grave. On se donne rendez-vous à midi et puis on va s'entraîner cet après-midi. Et puis voilà. C'est vraiment une autre population, mais c'est que du bonheur aussi. Ils nous apportent tellement de choses. Bon, des fois, on se dit, ah, j'ai un peu mal là, mais quand je les vois à côté, je fais, non, j'ai pas mal.
Oui, oui,
non, tout va bien. Ouais. Non, tout va bien.
Justement, Delphine et Sébastien, quel regard vous portez sur cette nouvelle génération avec Camille et aussi en para, avec leur performance, avec votre regard aussi?
Bah, disons que là, Camille, on a vu vraiment une guerrière sur le pas de tir.
Regardez,
elle s'est vraiment battue comme une lionne, elle y croyait, elle était sûre d'elle, mais sûre d'elle avec beaucoup de sérénité. Hein, c'est-à-dire, c'était pas non plus trop sûre d'elle, d'accord ? C'est juste, elle était consciente de ses capacités, en tout cas, de pouvoir gagner une médaille. Et elle aurait pu peut-être faire mieux, mais en tout cas, je pense que cette génération-là, je pense qu'elle nous laisse présager un bel avenir devant nous. Et puis, ce qui est des paras, moi, j'avoue que j'ai aussi un peu plus découvert, parce que c'est quand même plutôt assez récent.
Pardon. Oui, c'est assez récent.
Oui, c'est assez récent, depuis 2016. Hein. Avant, c'était la Fédération française Handi, FFH. Mmh. Et puis après 2016, c'est la FF Tir qui a récupéré donc, le monde du para. Donc,
Et pour en avoir discuté du coup avec Tanguy, Tanguy me disait que la Fédération française de tir leur a apporté un cadre. Les a vraiment, comme tu dis, c'est vraiment adapté à eux et ils se sont sentis faire partie de la même équipe. C'est-à-dire que les paras et les valides, ce sont les tireurs d'équipe de France. Et en fait, on s'en fiche qu'ils soient paras. C'est pas... Et ils nous apprennent effectivement beaucoup. Et moi, Tanguy, pour l'avoir suivi pendant toutes ces Olympiades, où on en avait parlé après Londres, j'ai dit, mais tu vas finir par les faire. Enfin, parce que c'est un chef d'entreprise, il est brillantissime et il s'est accroché comme un fou. Il s'est battu pour ses deux médailles et bravo quoi. Et effectivement, je te rejoins. Donc moi j'ai envie de dire qu'il y a une belle équipe, une équipe qui est costaud, qui à mon avis va encore nous surprendre dans les années à venir. Et il y a un beau collectif. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, un très beau collectif.
Ouais. Eh ben, tant mieux. Est-ce que c'est cher comme sport? Est-ce que les parents qui inscrivent leurs jeunes, et comment ça se fait pour les armes? On les prête? On les fournit? On est obligé d'avoir sa propre arme avec des réglementations très strictes?
Non, ça dépend des clubs. Mais la plupart des clubs, déjà, quand on rentre dans un stand de tir, on veut découvrir, déjà, on tire avec une arme à plomb. Donc déjà, chez nous, les deux mots, c'est important, c'est la sécurité. Mm-hmm. Sécurité avant tout et respect. Donc la sécurité, donc ils vont apprendre à manipuler une arme à plomb pendant X mois. Et souvent, les clubs, ils prêtent. Soit ils prêtent une arme pour une année, soit ils la louent, mais à 1 euro, 2 euros pour la séance ou pour les mois. Mais ce n'est pas très cher au début. Après, quand on veut s'investir, c'est une arme. Bon, alors moi, au pistolet, les armes à plomb coûtent 2000 euros à peu près, 2005. Mais ce sont des armes qui durent 20 ans.
Oui.
C'est pas tous les 4 ans qu'on change une arme. Donc, sauf, évidemment, quand on est athlète de haut niveau, il y a des aides. Et puis, comme je dis, hein, le tir, c'est un sport mécanique. Hein. On oublie que le tir, c'est un sport mécanique. Donc, effectivement, tout ce qui est, on appelle ça la tête de la gâchette, c'est pas ce qu'on appuie, ça s'appelle ça que détente. Mais tout ce qui est mécanique à l'intérieur, tout ce qui est canon, parce qu'évidemment, le projectile... Il faut qu'il soit vraiment performant, il faut qu'il y ait un mariage parfait entre le canon et le projectile, on va le changer effectivement régulièrement. Peut-être que là, mais bon, la fédération, généralement, là, ils interviennent pour nous aider financièrement.
Oui. Et sinon, l'équipement, la licence, ça coûte combien pour un jeune ou une jeune qui voudrait justement profiter de cette embellie des jeux?
Dans les clubs, ça varie. Ça varie, ça peut varier entre 120 euros... À des clubs où ça peut aller au-delà de 400 euros, mais ce sont des gros clubs qui, généralement entre 120 et 200 euros pour l'année. Quoi.
Et il y a des pas de tir partout, il y a des installations partout où on peut pratiquer ce sport
Comme j'ai dit,
facilement en Ile-de-France.
Il y a 167 clubs par département, donc il y a 8 départements, donc il y a quand même beaucoup de clubs. Mais après, l'idéal, hein, c'est de contacter la Ligue régionale. Et ça sera avec un grand plaisir d'accueillir les gens qui veulent découvrir le tir. Oui.
On l'a vu, hein, quels que soient les âges, les sexes, le poids, le handicap, c'est un sport qui est ouvert à tous.
Effectivement, comme disait Delphine, elle s'est préparée pour les Jeux de Sydney. Après, 2004, 2008. Après, elle a gagné une deuxième médaille olympique en 2012. C'est vrai que nous, notre sport, on n'est pas limité en âge.
Oui.
Par rapport,
oui,
je vais prendre un exemple, hein, la gymnastique, la GRS. Après 20 ans, on commence à... à avoir un peu mal au dos. Et voilà, nous, on n'a pas de contraintes au niveau physique. Il y a déjà des champions au jeu qui avaient 60 ans, ils participaient au jeu. Donc, ce n'est pas, c'est pas ça qui va nous limiter. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage dans notre sport. Donc,
Et puis, on peut faire du biathlon aussi.
On peut faire du biathlon, on peut faire du pentathlon aussi. Le pentathlon,
oui, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus.
Moi, j'ai connu et j'ai entraîné deux champions olympiques. Hein, donc, je connais très bien le pentathlon. Le biathlon, moins, mais il y a quand même notre ami Franck Badiou,
hein,
qui, grâce à lui, a aussi apporté son édifice à Martin Fourcade, hein, tout ce qui est matériel, comment préparer une carabine et compagnie, parce que on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'il fait froid. Donc, nous, les munitions, ils n'aiment pas le froid. Donc, il a travaillé sur ça et tout, les crosses et compagnie. Donc, vraiment, donc on a vraiment trois sports, on va dire. Mais effectivement, le biathlon, c'est tellement beau à voir. Le pentathlon commence aussi à être agréable à voir, parce qu'avec le laser run, parce qu'avant, ils tiraient plomb par plomb. Donc, ce n'était pas très médiatique. Maintenant, ils ont rajouté la course en même temps que le pistolet laser. Et on a bien vu avec Élodie Clouvel, hein, lors des Jeux de Paris 2024, où en 10 minutes, on a vu les deux courses en même temps et on s'accroche. Là, c'est vraiment visuel, c'est tellement agréable à voir. Donc, donc c'est vraiment les trois sports qu'on adhère.
Allez, on va souffler un petit peu en musique. Ensuite, il y aura la partie foot et après, bah, on retournera encore pour la fin de cette émission. On y va. la semaine dernière. C'est Stéphane Desenclos, notre confrère du quotidien du sport. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe, hein, bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, pour revenir sur, ça y est, ils l'ont fait, hein, le Paris Saint-Germain a enfin son étoile. Ils ont battu donc l'Inter de Milan 5-0. J'allais dire première étoile et avec plus que prévu la manière.
Ouais, avec la manière dans cette finale, bon, c'est vrai que c'était... on ne saura jamais si c'est Paris qui était beaucoup trop fort pour l'Inter ou l'Inter qui était vraiment complètement à côté de...
Un peu les deux, sûrement. Sûrement un peu les deux.
Voilà, bien sûr, ce qu'on dit toujours. Dans ces cas-là, un peu les deux, bien sûr. Et puis, une équipe d'un avocat, bon, c'est mérité sur l'ensemble. Mais voilà, donc maintenant, il y a deux clubs maintenant qui sont... ont gagné la Ligue des Champions, c'est encore très peu pour un pays, mais pour un pays comme la France qui voudrait encore élever le niveau de son football quoi, dans la hiérarchie européenne, mais c'est déjà pas mal. Espérons qu'on ne va pas attendre encore 32 ans pour qu'un autre club regagne de nouveau.
Oui, donc c'est un club qui va prendre un autre statut, Stéphane, maintenant. Hein.
Ah bah c'est clair, hein, mais bon, je pense que de toute façon, effectivement, c'est voilà, ça a été 5-0, donc c'est net et sans bavure, mais ça aurait pu jouer sur un détail et tout. Je veux dire, ils étaient déjà arrivés sur un autre niveau, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, mais chez les plus objectifs des observateurs, et en tout cas chez les au moins, sinon chez les bookmakers, ça se concrétise comme ça. Ils étaient même favoris, quoi. Donc non seulement le Paris Saint-Germain était en finale de la Ligue des Champions, mais était en finale de la Ligue des Champions avec le statut de favori, quoi. Donc ça veut dire que déjà ils avaient pris une autre dimension, quoi. C'est clair. Puis avec ces jeunes joueurs qui ont un avenir très prometteur, bah on est un entraîneur comme ça qui entre guillemets veille au grain, qui est capable de s'opposer par exemple au départ d'un joueur si quelqu'un met, on sait par exemple que par exemple le Real Madrid s'intéresse à Vitinha, si le Real Madrid dit on met même 100 millions d'euros pour prendre Vitinha, ce que le Real ne fera probablement pas, mais parce que c'est pas le genre de la maison, mais il est capable de dire à Enrique non, je veux pas, donc c'est un peu un garant aussi de l'avenir, donc je pense que je serais pas étonné si dans les 4-5 prochaines saisons, le PSG est encore joue de toute façon les premiers rôles en Ligue des Champions. Alors la gagner, c'est après il faut plein d'éléments, hein, d'événements, mais au moins arriver dans le top 4 ou très tout le temps dans le top 8, quoi.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Le plus dur c'est maintenant. Il va falloir donc confirmer et puis ne pas retomber dans ces vieux démons. Le Paris Saint-Germain, donc c'est on l'a dit, on l'a répété, mais c'est avant tout l'histoire d'un collectif ou maintenant le sportif a pris le pas sur le marketing.
Ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Même si, bon, après moi, c'est comme j'ai coutume de dire, parce que bien sûr, depuis samedi, on lit tout et on lit un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et tout. Bien sûr, c'est fait pour ça, les réseaux sociaux, hein, pour dire n'importe quoi et tout. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont payé quand même ces joueurs-là assez cher, faut le reconnaître. Mais d'abord, c'est le lot de toutes les équipes qui veulent remporter la Ligue des Champions. Hein. Je crois que sur les six ou sept dernières années, tous les vainqueurs ont investi entre 1 milliard et 2 milliards sur le recrutement sur les années précédentes. Donc ça veut dire que aujourd'hui, tu gagnes pas la Ligue des Champions sans investir largement. Et ce que je dis surtout, c'est qu'on peut considérer que quand tu es au Paris Saint-Germain, pour 80% des cas, tu payes les joueurs au moins 5 millions, quoi, on va dire au moins, on va dire 10% de plus que leur vraie valeur, quoi. Je veux dire, par là, par exemple, Barcola qui a été acheté en 2023, dans 50 millions, je crois, ou 45 millions, je ne sais plus exactement combien, si ça n'avait pas été Paris Saint-Germain, le club se serait contenté de moins. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Ryan Cherki parte pour 60 ou 70 millions à Manchester City. Donc, voilà, donc ça alourdit un peu le recrutement, parce que ces jeunes... Où Pacho, Neves, Vitinha, Barcola, Doué, on s'extasie sur Doué. C'est un joueur qui a été aussi pareil, qui a été acheté 50 millions, quoi. Maintenant, c'est aussi parce que c'est le Paris Saint-Germain, quoi. Donc, peut-être qu'il n'aurait pas été acheté autant par un autre club. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre le, c'était le, le, le point négatif, ce qu'on peut espérer maintenant, et surtout même assurer déjà avant ceux qui disaient que les joueurs évitaient à venir au Paris Saint-Germain pour tout ce qui tournait autour du club, et que c'était pas un club qui était réputé pour gagner. Maintenant, c'est un club qui va être réputé pour gagner, donc ça va peut-être être plus facile de prendre. Je sais que là, ils sont sur un jeune joueur sud-américain qui a 20 ans, je crois, vraiment une pépite. Malheureusement, là, tout de suite, j'ai pas son nom en tête. Il se le dispute avec le Real Madrid et apparemment, le favori pour l'instant, le ballotage, il est plutôt du côté du Paris Saint-Germain. Quoi.
D'accord.
C'est quand même assez exceptionnel. Quoi.
Alors, donc, Paris Saint-Germain-Tottenham, ça sera donc le match de la Super League et puis en Trophée des Champions, on l'avait pas dit la semaine dernière, mais ça sera donc Paris Saint-Germain-Marseille. Les Anglais qui ont quand même été à l'honneur dans ces Coupes d'Europe, hein, puisque Chelsea, autre vainqueur cette semaine de la conférence, et le club qui aura tout gagné, Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League, Coupe UEFA et Coupe des Coupes dans le passé. Victoire 4-1 devant le Betis de Séville.
Ouais, sans...
Un beau match en plus.
Oui, sans... Un match intéressant, on va dire oui, un beau match, oui, intéressant. La première demi-heure, et encore, oui, pendant 20 minutes, le Betis a pas mal bousculé Chelsea. On va dire, oui, pendant la première mi-temps, c'était à peu près équilibré avant que...
Ça bascule, quoi.
Ouais, que les Anglais passent... Ben, on voit quand même que, de toute façon, c'est pas une excuse ce que je dis, mais on voit quand même que, et peut-être ça passe un peu trop au second plan, qu'en fin de saison, comme ça... Les effectifs, la façon de gérer les effectifs et tout, c'est, ça rentre vraiment en ligne de compte parce qu'on a vu la deuxième mi-temps, là, c'est pas forcément la façon de gérer, mais pour Chelsea, Betis, on a vu que Chelsea avait un effectif quand même largement supérieur, ne serait-ce qu'au-delà de la qualité, hein, je parle en quantité par rapport aux Espagnols. Hein, il faut savoir que Chelsea a fait une première liste de toutes ses stars, quasiment, quoi, stars de l'équipe, genre par exemple Palmer, par exemple, il n'a pas été inscrit sur, il n'était pas inscrit dans la liste pour jouer la Conference League la première partie de saison. Et ils ont dès le début, ils ont dit on va garder un groupe pour jouer la première ligue et un groupe pour jouer la Coupe d'Europe, quoi. Donc forcément, je pense que ça se ressent à ce moment-là et en fraîcheur quand. En deuxième mi-temps, les Espagnols, ils ont explosé. Ils ont une très belle équipe, mais ils ne pouvaient pas rester. Puis on a vu hier avec le Paris Saint-Germain, le samedi, la fameuse gestion, le fameux turnover de Luis Enrique qui l'a porté ses fruits. Une des raisons peut être qu'on a eu une équipe de l'Inter qui est arrivée complètement sur les rotules en finale et avec des Parisiens, pas un seul blessé, pas un seul manque à l'effectif, tous les joueurs sont quasiment arrivés au prime de leur niveau de la saison, hein. Donc la gestion de l'effectif est très 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 importante.
Un petit mot sur le national pour clore donc cette saison, hein. Donc c'est Metz qui rejoindra Lorient et le Paris FC en Ligue 1, puisque Metz est allé gagner à Reims 3-1 après prolongation, après un match aller où vous avez concédé le match nul à domicile un partout.
Oui, tout à fait. Ça, on en parlait lundi dernier. Hein. Je sentais vraiment venir gros comme une maison. Reims, le dernier mois de compétition de Reims, c'est absolument hallucinant, quoi. Donc c'est un truc de dingue, quoi. Donc ils étaient sur une dynamique négative et il aurait fallu être vraiment très 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 fort pour arriver à s'en mettre. Là encore, ils mènent 1-0 et puis ils en prennent 3 derrière et c'est vraiment la dynamique de la défaite de la négation, quoi. Donc voilà, quoi. Maintenant, après, là où ça n'a pas été le cas, mais ceci dit, c'est pas non plus une dynamique. J'anticipe un peu sur ce dont je pense que tu vas parler, Philippe, le barrage national Ligue 2. Bien que c'était la semaine dernière, peut-être ça.
Oui,
mais c'est, en tout cas, voilà, c'est différent.
Oui,
Clermont a terminé la saison sur une bonne dynamique.
Absolument.
Sur ces 5-6 derniers matchs, ils ont terminé sur une bonne dynamique, Clermont. Et donc, ils sont arrivés face à Boulogne, qui, Boulogne aussi, était sur une mauvaise dynamique. quoi, pas excellente en tout cas. Et sur les tout derniers matchs, après avoir été très très fort, et donc c'est l'équipe qui a la meilleure dynamique qui l'emporte. Et puis donc pour Reims, ça a vraiment été fatal, quoi. C'était un très très brutal ce but du Havre. Ils sont descendus à mon avis en Ligue 2 à partir du moment où
le pénalty du Havre. Le pénalty du Havre.
Où le Havre a mis le pénalty, et à ce moment-là ils vont vers la Ligue 2 quasiment direct, à mon avis.
Oui, on va rappeler que Clermont, on en avait parlé la semaine dernière, c'est effectivement maintenu en Ligue 2 après avoir donc gagné à Boulogne le match aller 3-1, pardon, Boulogne-sur-Mer, et malgré sa défaite donc 2-1 au match retour. Un petit mot, ça fera plaisir à notre invité Delphine, les féminines 4-0 pour l'équipe de France qui poursuit donc sa nette domination en Ligue des Nations avant un dernier match où elle est déjà qualifiée contre l'Islande demain à 18h.
Oui, tout à fait. Ben là, justement, je regardais un petit peu ça parce que c'est jeudi, je crois, que le sélectionneur annonce la liste des Bleus pour l'Euro.
Pour l'Euro,
et je regardais ça et je me disais que pour la quasiment première fois depuis très longtemps, j'y crois un peu, quoi, à cette équipe de France. Parce qu'il a écarté, comme on a vu, comme on a vu dans les dernières listes, il a écarté trois anciennes, dont
le fameux Pirana,
ouais, voilà, et puis Dali, encore une troisième. Il a décidé pour pouvoir insuffler un vent nouveau aussi en disant faut aussi passer à autre chose. Je pense que c'est peut-être une bonne chose. On va voir ce que ça va donner. Mais moi je les sens bien. Puis surtout ils gagnent tout et tout. C'est pas c'est quelqu'un qui est là parce qu'il a vraiment envie d'être là, qui est pas là parce que pour Diacre, c'est une femme talentueuse, alors on va lui donner l'équipe de France. Après Hervé Renard, parce que il est là de passage quasiment, hein, dès le début on le savait, et ça a l'air d'être un petit peu différent l'état d'esprit. En tout cas, c'est l'impression que ça donne.
Très bien, Stéphane, merci en tout cas. Puis rendez-vous n'est pas la semaine prochaine, c'est Pentecôte, hein, mais dans 15 jours, la saison n'est pas finie encore. Hein.
Ouais, puis voilà. Non, elle n'est pas finie.
Il y a Ligue des Nations maintenant qui arrive pour l'équipe de France.
Ah oui, il y a la Ligue des Nations. À Clairefontaine, on connaît bien. Il y a la Coupe du Monde des clubs après. Là, il y a du foot jusqu'au 13 juillet, ça. Après, il y aura une petite pause. Et puis, je voudrais juste dire un tout petit mot.
Oui, vite, rapide. Oui, rapide.
Très rapide. Marseillais, que. On peut pas comparer. Je vois dans certains médias, ou en tout cas sur les réseaux sociaux beaucoup, il y a pas une équipe entre l'OM en 1993 ou le Paris Saint-Germain en 2025 qui méritait plus que l'autre de gagner des champions. Pour les deux équipes, c'est un super exploit,
absolument,
un super résultat.
Fallait le dire.
C'est énorme. Ce qu'a fait Marseille en 93, c'est énorme. Aujourd'hui, ça peut paraître moins énorme parce qu'on est aujourd'hui, qu'on vous parle des équipes, des noms de clubs et tout, qui aujourd'hui ont un peu disparu. Mais à l'époque, c'est ce qu'ils ont fait, c'était énorme. Et comme le Paris Saint-Germain, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui est énorme, quoi. C'est des époques, il y a 30 ans. Il y a
32 ans,
on peut pas comparer. Oui. Les choses sont incomparables.
Bien sûr.
Deux équipes qui ont marqué l'histoire du foot français, qui marquent l'histoire du football français. Et on espère encore une fois qu'il y en aura d'autres. Et pas, je ne parle même pas d'un nouveau succès du Paris Saint-Germain, bien sûr.
Mais d'une autre équipe.
Un autre club comme Monaco, un club comme Bordeaux, il va falloir attendre longtemps, mais un Lyon qui se donne les moyens de remporter cette compétition.
Très bien, Stéphane, merci. Il fallait finir là-dessus. Et puis rendez-vous dans deux semaines. Merci en tout cas. Delphine, il nous reste encore 2-3 minutes. Le sport féminin, vous avez œuvré pour. Est-ce que là aussi, il est quand même un petit peu plus médiatisé. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ?
Alors, on est dans la bonne direction, mais je pense qu'il ne faut pas oublier d'être très vigilante, et vigilant d'ailleurs, pour poursuivre les efforts, parce que ça reste encore Je pense que si on compare, ça reste encore faible. Mmh. Et il faut continuer à se battre parce que ce soit le sport masculin ou féminin, c'est beau à regarder.
Bien sûr. Et puis, il faut surtout pas comparer, c'est ça le problème.
Bah non, en fait, c'est toujours pareil. Bah voilà, oui. Votre collègue parlait effectivement de pas comparer entre 30 ans, 30 ans.
Oui, bah
voilà.
C'est vrai en plus.
Mais non, mais voilà.
C'est des broutilles, des querelles complètement idiotes. Quoi.
C'est, ouais, c'est bon. Voilà, enfin, on va pas s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, que ce soit les hommes ou les femmes... quand on pratique un sport et qu'on pratique à haut niveau, on embarque tout le monde, en fait. Et c'est chouette à regarder, que ce soit le football masculin ou féminin, parce que là, c'était le sujet. Mmh. Bah, peu importe, quoi, ça reste une belle équipe à regarder à chaque fois.
Je voulais revenir un tout petit peu sur l'image de marque qu'a votre sport par rapport aux parents. Il n'y a pas de réticence quand un jeune ou une jeune dit « je veux faire du tir ».
Alors, un petit peu au début, c'est souvent les moments. Les moments quand ils ne connaissent pas le sport et quand ils accompagnent leur enfant. Donc, ce qui est important, évidemment, chez nous aussi, il y a aussi des formations. Hein, pour, c'est pas juste, ils rentrent et puis on donne une arme dans les mains et puis hop, ils se débrouillent. Hein. Il y a évidemment un encadrement très exigeant et on se bat énormément pour que l'image du tir soit la plus belle quand les gens arrivent dans un stand. Et puis, les moments, ils s'aperçoivent que finalement, c'est un sport. Moi, quand j'étais jeune, je ne savais même pas que c'était une arme. C'est au moment que j'ai été policier que j'ai dit « Ah oui, j'ai une arme finalement ». Mais pour moi, c'est juste une arme qui me permet, un outil qui permet d'envoyer le projectile toujours au milieu de la cible. Donc pour moi, ce n'est même pas une arme que j'ai dans les mains, c'est un outil. Pour moi, c'est comme un footballeur avec le ballon. Mm-hmm. Et souvent, les mamans, quand ils testent, ils restent, elles signent et elles adorent ça. Et, et moi, je compare toujours les garçons et les filles par rapport au résultat. Et c'est pour ça que les filles, elles sont très assidues. Moi, j'adore entraîner les filles parce qu'elles écoutent, elles appliquent. Et souvent, elles sont meilleures que les garçons. Et ça, j'adore.
Très bien. Et en tout cas, Sébastien, merci. À très bientôt.
Merci, merci Philippe. Ouais. Merci Vanessa. Ouais, ouais. Juste de dire...
Vite.
Ceux qui veulent faire du tir en Île-de-France, allez sur le Ligue de tir IDF. Autrement, vous appelez au 01 45 57 34 20 et ça sera un grand plaisir de décrocher le téléphone et vous accompagner vers un stand de tir.
Fallait le dire. Merci. Énorme merci, Delphine.
Merci à vous et puis à pour très cet bientôt. Accueil.
Et puis bon retour dans une région qu'on connaît bien.
Voilà, exactement. Voilà. Merci.
Allez, belle soirée
merci
à
beaucoup.
Vanessa.
Bonne soirée. Merci.
La semaine prochaine, c'est la Pentecôte. On se repose un peu. On revient dans 15 jours. Et puis, on va maintenant passer le témoin à l'équipe de Au bout du foot. Hein. Naturellement, on va parler du Paris Saint-Germain. Ça va de soi. Merci. Allez, belle soirée à toutes et à tous. Merci. Aléo, émission qu'on pourra retrouver naturellement comme toutes celles des semaines précédentes en podcast. Et on finit. Comme chaque semaine en musique. À très bientôt. Salut. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up.
my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. It was mine.